Donc je vais prier. Seigneur, oui, merci pour ce sujet de l'autorité. Tu vois comment c'est un sujet qui est pertinent pour notre société de maintenant, qui est où l'autorité est en panne et cela ne fonctionne pas bien. Et tout le monde en est affecté, Seigneur. Tu vois notre société, comment elle souffre de cela. Nous qui avons ta parole, nous voulons mieux bien comprendre les enjeux de l'autorité. Et merci parce que tu pourvois dans ton Église, tu pourvois des hommes qui font un travail pour l'Église, qui sert à tout le monde. Et nous voulons également se saisir de ce travail pour nous-mêmes et également pour toutes les personnes qui nous entourent quand on a parlé de ce sujet, de l'autorité. Merci Seigneur, parce que quoique les choses soient des fois difficiles à comprendre, tu nous as donné ton esprit pour nous éclairer ta parole et tu permets ainsi Seigneur que l'on grandisse dans la connaissance de Jésus-Christ pour lui ressembler et porter du fruit pour sa gloire. Merci Seigneur de nous aider, d'aider aussi les enfants Seigneur. Et bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on avait vu donc chapitre 1, l'autorité créationnelle, cette merveilleuse autorité avec laquelle Dieu décrète, Dieu parle, Dieu crée la vie avec sa parole, avec son autorité. Le premier chapitre, il y avait donc 4 semaines déjà de ça, 4 dimanches. Le titre, c'était « L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. » Et il y avait Dieu va donner aux hommes, aux femmes, une autorité. Il veut que les hommes partagent son autorité avec les hommes et les femmes tels que nous. Et donc nos premiers parents, Adam et Ève, ont été créés à l'image de Dieu et ils ont reçu une autorité pour régner sur la création, régner sur tout ce que Dieu avait fait. Dieu veut partager son règne et partager sa gloire avec les hommes et les femmes qu'il a créés avec nous. Ça, c'était le chapitre 1, c'était un projet merveilleux, l'autorité de Dieu qui crée la vie. Et l'autorité, c'est ça en substance. Hélas, chapitre 2, on connaît l'histoire de la chute, l'histoire de la désobéissance, justement, lorsque Adam et Ève ont changé d'autorité, ils ont choisi une autre autorité que celle de Dieu, la leur. Ils ont voulu se mettre à la place de Dieu et eux décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, vouloir se mettre à la place de Dieu, donc c'était le chapitre 2. Et le problème, c'est que c'est pas du tout les hommes en voulant prendre à la place de Dieu, c'est un échec total. Hein. Ils n'ont pas la capacité de donner, de créer, et ils sont pas du tout à leur place. Et au lieu d'exercer une autorité qui crée, qui fait le bien, ils vont exercer une autorité qui crée et qui fait le mal. Et au lieu de construire et de créer, elle va détruire cette autorité. Quand l'homme prend la place de Dieu, il exerce son autorité de façon destructrice. Et le titre, c'était « L'autorité est le ministre et le sinistre stratagème de Satan pour supplanter Dieu. » Et on a vu le chapitre 3, l'autorité rédemptrice qui est venue dans la personne de Jésus-Christ. Il a la même autorité créationnelle que Dieu. Mais en plus, c'est l'autorité qui se sacrifie, qui paye le prix et qui permet d'obtenir grâce. Et le parfait exemple est Jésus-Christ. C'est par l'autorité que Christ sauve et rachète. Jésus-Christ avait toute autorité et il a donné librement sa vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous restaurer. Aujourd'hui, on va faire un saut dans le livre pour aller directement au chapitre 11, où Jonathan Liman présente deux autorités. L'autorité de commandement et l'autorité de conseil. L'autorité de commandement et l'autorité de conseil. Et c'est afficher ce texte derrière nous qui parle de ces deux, à peu près tous les types d'autorité sont contenus dans ce texte-là. Et on va faire un petit rappel, donc je vais lire le texte. Dans quel contexte on est, l'apôtre Paul était le fondateur de l'église de Corinthe. Il est parti ensuite fonder d'autres églises et il entretenait bien sûr des relations avec cette église de Corinthe. Ce sont des relations par courrier, par des lettres qui s'échangeaient et de temps à autre il faisait des visites. Et là, entre deux visites, il y en a qui se sont élevés contre son autorité, qui ont contesté son autorité d'apôtre, qui ont contesté son autorité de père. En quelque sorte, il était le père de cette église-là, c'est lui qui lui avait donné la vie. Et on retrouve toutes ces choses-là. Et donc, Paul se retrouve confronté à des personnes qui ont usurpé l'autorité pour enlever l'autorité que Paul avait remis aux anciens, il avait remis à Dieu. Il voulait la prendre pour eux-mêmes. Alors, on va lire ça. Je vais venir chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sous la déclaration de deux ou de trois témoins. Je l'ai dit, je le répète, comme je l'ai fait lors de ma deuxième visite, et aujourd'hui que je suis absent, je l'écris encore, à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous semblons disqualifiés. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles, alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris cela étant absent, afin qu'une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour construire et non pas pour démolir. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vous tous. L'autorité est une autorisation pour une tâche donnée. Dieu donne l'autorité aux hommes, mais c'est dans un cadre donné, c'est dans une mission donnée, et c'est pour une fonction donnée. Ça ne s'applique pas pour tout le monde. C'est un cadre assez structuré. Si je prends un exemple, quand un gendarme a son avis d'un gendarme, il a l'autorité pour faire la police sur les routes, mais il n'a pas l'autorité pour venir faire la police dans les maisons ou pour venir dire à quelqu'un fais ceci ou fais cela avec son argent par exemple. Son autorité est là pour faire respecter par exemple le code de la route ou pour faire respecter les lois civiles. Et une personne qui a l'autorité est toujours soumise. Elle est toujours soumise. L'apôtre Paul était soumis à Jésus-Christ. Un gendarme est soumis à ses autorités. Et l'autorité ne s'entend que dans la soumission. Sachant que la soumission ultime remonte en haut de la chaîne des responsabilités jusqu'à Dieu lui-même. Une personne qui a de l'autorité est toujours soumise. Elle doit apprendre d'abord la soumission avant d'apprendre à commander. Et c'est ainsi que ça se passe dans nos sociétés, c'est ainsi que ça fonctionne. Une fonctionnement donc dans un cadre défini. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Impossible pour Paul d'exercer son autorité si c'est pas pour si ça concerne pas la vérité. Impossible pour Paul d'utiliser son autorité pour le péché. C'est pas la façon dont il doit exercer l'autorité. Il n'a aucune force, aucune puissance pour tout ce qui est le mensonge. Il n'en a que pour la vérité. L'autorité s'exerce dans le cadre d'une fonction définie. L'autorité a une finalité, elle a un objectif. Chaque personne qui a une autorité a une finalité, a un objectif. Et l'autorité de Paul qu'il avait sur l'Église, c'était le perfectionnement des saints. C'était que l'Église grandisse, c'était que les personnes soient heureuses, soient joyeuses, qu'elles vivent en communion. Et la façon dont il exerçait son autorité sur l'Église et son autorité en tant que fondateur de l'Église, c'était cela. Et cette autorité s'exerce toujours pour produire le bien. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas venir dans l'Église pour sanctionner. C'est pas l'objectif de son autorité, c'était pas de sanctionner, c'était pas ça. L'objectif, c'est de construire. En ce sens, il n'a pas envie de venir faire la police dans l'église de Corinthe. Il ne souhaite pas cela. Il souhaite que les Corinthiens se corrigent. Et pourtant, il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire s'il écrit au verset 1. Tout se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Je ne ménagerai personne. Et il laisse le temps à l'église de mettre ses affaires en place parce que c'est pas le but, c'est pas de sanctionner. Le but, c'est que les personnes construisent, soient édifiées. L'autorité fait toujours du bien et l'autorité enseigne sur Dieu. Chaque personne qui exerce l'autorité enseigne quelque chose sur Dieu. Et le grand malheur, donc on l'a vu avec le chapitre 2, c'est que si l'autorité est mal exercée, ça enseigne quelque chose qui n'est pas bon sur Dieu. Et l'autorité bien exercée, au contraire, va diriger vers Dieu et va enseigner quelque chose sur Dieu. C'est ce que l'on va voir maintenant ensemble, à travers deux types d'autorité. Donc l'autorité de commandement, alors ça parle, hein. C'est l'autorité de commandement, c'est celle qui est transcendante, c'est-à-dire c'est celle qui est au-dessus et qui impose ses règles. Elle parle donc, l'autorité de commandement parle de la transcendance de Dieu. Elle parle également de Jésus-Christ Seigneur, de sa nouvelle venue quand il reviendra et qu'il aura tout pouvoir, toute autorité et qu'il fera punira le méchant et qu'il exterminera le mal et il aura cette autorité de commandement qui est contraignante, hein. L'autorité de commandement, elle est contraignante. Elle oblige de faire les choses. Il n'y a pas le choix. On n'a pas d'alternative. Elle oblige de faire les choses. Et là, il y a différentes autorités qui ont une autorité de commandement. Et chaque fois, c'est représenté par un objet qu'elles ont dans les Écritures. La première autorité de commandement, c'est l'autorité civile, bien sûr. Romains chapitre 13, versets 1 à 5. On lit régulièrement ces versets. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste, l'autorité civile, résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir crainte de l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, en effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, de cette peur du gendarme, on pourrait dire autrement, mais par motif de conscience. Mais par motif de conscience, et je crois que c'est ainsi que nous conduisons et que nous appliquons à bien conduire et respecter le code de la route. C'est par motif de conscience, et c'est pas simplement parce qu'il n'y a pas de gendarme autour de nous pour nous rappeler à l'ordre. Cette autorité civile, elle remonte, si on la remonte dans la Bible, au temps de Noé, où Dieu a dit ceci. Après la sortie de l'arche, sachez-le, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai la vie à l'homme, de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Et donc, il établit le gouvernement humain. Quant à vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, pullulez et multipliez sur la terre. L'autorité civile est la seule qui peut appliquer la peine de mort. Tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. La justice doit être proportionnelle. Et c'est ce que on entend dans les actualités par rapport à la police. Est-ce que la réaction de la police a été proportionnelle? C'est la grande question qui se pose. C'est elle qui, in fine, a le plus de pouvoir, le plus de possibilités. Pourquoi? Sa mission, c'est de protéger le faible et de punir le coupable. Elle est toujours la plus forte, par définition. Hein, l'État français, il a toutes sortes de moyens. Et plus il a affaire à des personnes qui sont armées, qui sont méchantes, qui sont équipées pour faire le mal, plus elle amène des moyens en conséquence. Et elle se doit d'avoir le maximum de pouvoir et de puissance. Personne ne doit avoir plus de puissance que l'autorité civile. Sinon, elle n'est pas crédible. En France, on n'applique pas la peine de mort. Nous sommes un pays assez riche pour pouvoir garder une personne dangereuse en prison toute sa vie aux frais de la société. L'idée, c'est que l'autorité a le devoir de protéger le faible et de punir le coupable. Autorité civile, elle est premièrement dissuasive. L'objectif, comme on le voit là, ce n'est pas d'utiliser la force, ce n'est pas de l'utiliser. C'est simplement que cette force qu'a l'autorité civile dans sa main, cette épée que le magistrat porte, soit suffisamment dissuasive pour rester tranquille. Et donc son symbole biblique, c'est l'épée. Et c'est un symbole. Aujourd'hui, qui aurait peur d'une épée? Personne. Enfin, je m'entends. C'est pas l'arme la plus dangereuse, la plus létale que l'on connaisse. À cette époque-là, oui. Donc, quand on parle de l'apôtre Paul parle aux Romains de l'épée, c'est simplement que cette épée de magistrat représentait toute la puissance des légions romaines qui étaient derrière l'État romain. Hein. Voilà. Donc, c'est un symbole. Il y a un objet qui symbolise cette autorité qui est contraignante. On n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'elle enseigne ? Elle enseigne que Dieu est législateur et juge. L'autorité civile enseigne que Dieu est législateur et il est juge. Une autre autorité contraignante, c'est l'autorité de l'Église. Ça peut vous surprendre, mais elle a un domaine, une fonction qui lui est propre, qui est différente de l'autorité civile et qui n'est pas dans le même registre. En Matthieu 16, 18, 19, nous lisons, j'accélère. Moi, je te dis, tu es Pierre et que je suis ce rocher. Sur ce rocher, je construirai mon église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Matthieu 18, 15, 18. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné. Si t'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes et reviens de nouveau vers lui. S'il écoute, s'il refuse, dis-le à l'Église. C'est la dernière des autorités. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme un païen, un membre de notre peuple, une personne quelconque du monde. Je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. L'Église a une autorité contraignante en ce qu'elle a une fonction de déterminer qui fait partie du royaume de Dieu et qui n'est pas dans le royaume de Dieu. C'est elle qui déclare cette personne, on a vu son baptême, on a vu sa confession, on la déclare comme faisant partie de l'Église. C'est notre frère, c'est notre sœur, c'est un des nôtres. Et à l'inverse, elle a aussi l'autorité de déclarer cette personne-là, au vu de ses faits, quand l'Église se rassemble et statue, elle doit sortir de l'Église, elle n'est pas un bon représentant du royaume de Dieu dehors. Et donc, elle a le pouvoir, l'Église, seule, dans sa collégialité, dans la décision de l'ensemble de ses membres, a le pouvoir de mettre une personne dehors. Et donc, c'est symbolisé par les clés. Et qu'est-ce qu'elle enseigne ? Elle enseigne, l'Église, par son autorité, enseigne que Dieu sauve, et elle enseigne que Dieu punit également. Que Dieu punit. Il fait les deux, il sauve et il punit. L'autorité de l'Église est contraignante dans ce domaine-là. C'est elle qui détermine si une personne est dans le royaume, est de l'Église, ou si elle détermine que non, cette personne, elle est de l'extérieur, visiblement, dehors. Et la personne doit quitter l'Église. C'est une contrainte. L'autorité parentale. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça. Les écrits de Salomon, qui était un homme très sage, avait écrit ceci. Celui qui ménage sa verge a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. 22:15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Et donc la fonction de l'autorité parentale et de préparer un enfant à être plus tard un adulte, hein, ce qu'on appelle l'éducation. Et dans l'éducation, il y a une autorité de contrainte. L'enfant doit apprendre la soumission pour son bien, hein, car la soumission est bonne. On ne parle pas de se soumettre à des autorités qui soient mauvaises, toxiques, mais à une bonne autorité. L'autorité bonne parle bien de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas être soumis ne saura pas faire le bien avec l'autorité. Donc il est important d'apprendre, que les enfants apprennent à se soumettre à l'autorité, parce que l'autorité est bonne et parce qu'un jour ils auront eux-mêmes à exercer cette autorité-là. Et donc il faut qu'ils aient appris à se soumettre avant d'exercer l'autorité. Autrement, ça va, il va y avoir un mauvais exercice de l'autorité. Il y a de la transcendance et de l'immanence dans l'autorité des enfants. Ça commence avec la transcendance. Les enfants doivent obéir, voilà, parce que bien souvent c'est leur vie même qui est en danger autrement. Mais petit à petit, on ne parle pas comme, on s'adresse pas à un enfant de la maternelle comme on s'adresse à un adolescent. Et il y a, on passe un enseignement, une autorité transcendante qui vient d'en haut à une autorité immanente qui est davantage dans l'accompagnement, le conseil. On va voir tout à l'heure ce que c'est que l'autorité immanente. En tout cas, le but de cette contrainte de ne pas laisser le choix, c'est à enseigner comme Dieu dirige, à enseigner à l'enfant comment, la façon dont Dieu dirige et comment la personne doit, plus tard, devra diriger. Et c'est une grande responsabilité. Dieu veut partager son règne avec les hommes et donc il faut préparer des hommes et des femmes qui sachent régner comme Dieu règne. C'est un grand travail et qui a toutes les palettes de l'autorité, donc l'autorité transcendante, l'autorité de commandement, mais aussi l'autorité de conseil que l'on va voir maintenant. Et ça se déroule différemment dans le temps, au fur et à mesure que l'enfant grandit. L'autorité, ceci nous amène à l'autorité de conseil. Elle parle de l'immanence de Dieu, un Dieu présent, un Dieu proche de nous, un Dieu avec nous. Et elle parle de Jésus-Christ sauveur, non pas de Jésus-Christ Seigneur qui revient régner, qui établit son règne, mais Jésus-Christ qui vient pour sauver. Elle parle de l'Évangile. Elle illustre la relation de Jésus-Christ avec son Église. Et c'est une autorité qui n'est pas contraignante, mais qui, elle n'oblige pas. Elle n'oblige pas. Il y a deux autorités, nous dit Jonathan, qui sont comme ça. C'est l'autorité de l'ancien dans l'Église. L'ancien, c'est le responsable de l'Église. 1 Timothée 4, 11, 12. Paul instruit Timothée, ancien de l'Église, déclare ces choses, ce qu'il a dit avant, hein, et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ça, c'est quand il parle à Timothée, et de l'Épître aux Hébreux, c'est l'auteur parle des anciens, et il dit ceci: obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Cette autorité est une force morale. Elle est une force morale. Elle rappelle à chacun qu'un jour, on aura à rendre des comptes à Dieu. Et donc, elle ne contraint pas à obéir, à faire les choses, elle n'a pas de pouvoir de contraindre les personnes. Elle peut simplement les avertir, sachant que ces personnes-là, un jour, seront devant Dieu. Elles seront devant Dieu. Elles auront à rendre compte directement à Dieu. C'est une force morale. Elle montre l'exemple. Elle met en garde. Elle donne du sens aux choses. Elle explique. Cette autorité enseigne à choisir librement d'obéir à Dieu. C'est sa mission, c'est de enseigner à obéir librement à Dieu. À obéir librement à Dieu. Il y a également l'autorité de l'époux. L'autorité de l'époux dans son foyer. Il y a trois textes qui parlent bien de cela. Je vous les lis. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle, homme, féminin et masculin, homme et femme. Dieu créa l'homme à son image et il les crée féminin et masculin. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme mâle soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Quelqu'un qui soit son vis-à-vis. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ils ne feront qu'un. Genèse 2, 24. Éphésiens 5, 22, 24. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. L'autorité du mari sur son épouse n'est pas contraignante. Car la femme, elle est de Dieu. La femme est de Dieu. Elle appartient pas à l'homme. Elle a rien à voir avec l'homme. Elle est de Dieu. De même que lui est de Dieu. Donc, on le comprend, on le sait, donc le mari ne doit jamais diriger sa force contre son épouse. Hein. La direction de sa force est là pour protéger, elle n'est pas là pour contraindre à l'intérieur de sa maison son épouse. Elle est là pour un rôle de protection. C'est interdit hein, de diriger sa force contre son épouse. Car elle est de Dieu, elle porte l'image de Dieu. Cette autorité enseigne sur la relation qu'il y a entre Jésus-Christ et son épouse. C'est l'exemple concret qu'on a et que Dieu a voulu pour l'homme et pour la femme, qu'il explique la relation à travers la relation de l'homme et de la femme, la relation entre Jésus-Christ et l'Église. Est-ce que Jésus-Christ nous force? Est-ce qu'il nous fait de la pression? Est-ce qu'il nous fait de la violence? Est-ce qu'il nous manipule? Que répondrez-vous à ces questions? Non. Non. Jésus-Christ n'agit pas comme ça. Jésus-Christ n'agit pas comme ça. Il est doux, il est humble de cœur et il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et donc, c'est ainsi que l'autorité du mari s'exerce. Comment, donc une autorité qui n'est pas une autorité de commandement, mais de conseil. Comment s'exerce cette autorité de conseil? Une autorité de conseil agit avec plus de douceur qu'une autorité de commandement. Elle parle doucement, elle incite. L'idée, on n'est pas obligé on n'a pas l'obligation de suivre un conseil que va donner un ancien de l'Église. Il n'a aucun moyen d'obliger les membres de l'Église à le suivre, à faire ce qu'il dit. Hein. Mais l'idée, c'est que le membre de l'Église, il entend et il comprend et il entend la voix de Dieu. Ce n'est pas l'obligation du mari que l'épouse doit entendre également, mais c'est l'obligation de Dieu. C'est à travers ce qui est dit, il faut que le membre de l'Église entende Dieu lui parler. Et pour la femme et le mari également, la femme se soumettra si elle entend à travers son mari la voix de Dieu qui lui parle. La voix est douce. La soumission doit être absolument libre. C'est impossible d'oublier de l'obligation. Ça n'a plus de sens. Hein. Ça n'a plus de sens dans un ménage. Ça n'a plus de sens dans une église non plus. Jésus dit, vous connaissez ce passage, Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre entend ma voix, qu'il ouvre la porte. » Jésus-Christ ne défonce pas la porte pour entrer. Il ne défonce pas la porte, il ne fait que taper à la porte de notre cœur. Ainsi est l'autorité de conseil. Elle parle doucement et elle incite. C'est une autorité qui repose sur la confiance dans la relation. Christ n'a jamais forcé l'Église, mais il a toute sa confiance. Jésus-Christ a toute notre confiance. Obtenir une obéissance forcée d'une épouse ne sert à rien, hein, parce que ça passe complètement à côté de l'objectif qui est le partage du règne sur la création. L'autorité de conseil repose uniquement sur la confiance, sur les relations qui sont de qualité, hein, entre les anciens, les responsables de l'Église et les membres de l'Église, comme entre la femme et son mari, le mari envers sa femme. Il doit y avoir des relations de confiance. Une autorité de conseil se mérite. Paul recommande que les anciens doivent être sobres, fidèles, stables, fiables, maîtres d'eux-mêmes. Le mari doit s'efforcer d'enlever tous les obstacles qui empêcheraient à leur épouse de se soumettre. Hein, c'est sa responsabilité. Hein, l'autorité de conseil, ça se mérite. L'autorité de conseil, elle est patiente et elle œuvre sur le long terme. Elle est patiente, elle a la vision du long terme. C'est tout le contraire de notre société aujourd'hui qui est impatiente et qui veut tout de suite et maintenant. On est dans la réflexion à court terme. Nous autres, on réfléchit à 4 ans, jusqu'à la prochaine. Nos hommes politiques réfléchissent jusqu'à la prochaine élection. Ils ne voient pas à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Ils prennent des décisions toujours pour le court terme. On est comme ça dans cette habitude-là. Mais une autorité de conseil, elle est patiente et elle voit le long terme. Favoriser le résultat à long terme plutôt que des résultats forcés à court terme. Et Paul demande aux anciens à enseigner avec une pleine patience, sans jamais s'irriter, sans jamais se manifester de l'impatience comme ça. Non, ils travaillent pour le long terme. Et comme c'est le long terme, cela demande de la patience et de la persévérance. Une autorité de conseil respecte ce qu'elle dirige comme étant ses égaux. L'ancien de l'Église n'est pas plus que le membre de l'Église. Ils sont tous, Pierre disait, moi je suis un ancien, mais comme les autres anciens. Et l'ancien, c'est une charge qu'il a. C'est pas une profession, c'est une charge qu'il reçoit et qu'il exerce pendant un certain temps, pendant quelques années. Et puis après, ben, il va se rasseoir et redevenir ce qu'il était avant, un simple un membre de l'Église, frère parmi les frères. C'est comme ça que l'on dit pour un ancien. C'est pour ça qu'elle va faire appel à la capacité de décider. Paul écrit en Philémon, il veut que Philémon fasse quelque chose. Il écrit ceci, « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Il veut que ce soit Philémon qui prenne la décision d'accueillir Onésime, qui était un esclave affranchi. Il demande à Philémon qu'il le reprenne chez lui comme un frère et pas comme un esclave maintenant. Mais il veut pas, il veut que ce soit Philémon qui prenne la décision. Lui, il ne fait qu'apporter un conseil qui va argumenter. Donc, il n'est toujours, comme il n'est pas question de contraindre, il faut développer les relations de partenariat, il faut développer la relation de collégialité. Et dans les couples, c'est beaucoup le partenariat. On est ensemble, on est partenaire. Également, les maris et les anciens doivent être prompts, rapides à renoncer à leurs droits. Ils ont un devoir d'exemplarité. Hein. L'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est que les personnes grandissent. Pour l'ancien, c'est de grandir et de conduire vers Christ. C'est de conduire vers Christ ensemble et d'un commun accord. On doit tous avancer ensemble, en même temps, et que l'on grandisse ensemble et que on soit tous d'accord pour aller dans la direction dans laquelle on va. On ne peut pas contraindre. On ne peut que convaincre et que les membres de l'Église soient d'accord. Ok, on y va. Telle est la volonté de Dieu. On se confie en Dieu. On a confiance en Dieu et on va ensemble. Donc l'autorité de conseil, elle est de conseiller fondamentalement une annonce de l'Évangile, et c'est celle qui s'applique dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà, on est arrivé au terme de ce message. J'espère qu'il va... Je suis persuadé, moi, j'ai beaucoup appris de des clarifications qui sont apportées ici, qui sont des choses qui ne sont pas révolutionnaires, mais on est dans un monde où l'autorité est remise en question. Et la solution à une mauvaise autorité, c'est pas l'absence d'autorité. La solution à une mauvaise autorité, c'est une autorité qui est bien exercée. L'autorité est indispensable au bonheur de l'être humain. C'est quelque chose que je pense que vous êtes convaincu et qu'on doit être convaincu que l'autorité est bonne. C'est elle qui crée la vie. C'est elle qui nous faut. Une bonne autorité. Et on doit travailler à cela depuis les petits-enfants jusqu'à toute notre vie. Car ainsi, on sera heureux. Je vais prier. Seigneur, notre Père Céleste, tu vois les plans de bonheur que tu as pour nous. Et ces plans de bonheur passent par l'apprentissage de la soumission. Savoir se soumettre à toi et savoir se soumettre aux personnes que tu places pour nous faire du bien. Seigneur, merci. Merci de nous apprendre à diriger. Merci de nous apprendre à exercer l'autorité. Merci parce que c'est cela que tu veux. Tu veux partager ton autorité avec nous et on doit apprendre à l'exercer de ma façon à créer et à promouvoir la vie. Merci pour ce beau projet que tu as pour nous. Notre ennemi est venu pour tout saccager, mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver et pour restaurer son vraie autorité. Merci parce qu'un jour, il n'y aura que l'autorité de Jésus-Christ et ce sera un monde merveilleux. Ce sera le paradis que nous retrouverons en ce jour-là. Et soupirons après ce temps-là. Merci de nous donner la sagesse, l'intelligence pour discerner l'amour entre nous qui est indispensable et bénis. Bénis-nous, bénis nos enfants, bénis nos papas, nos mamans, bénis nos grands frères, nos grandes sœurs. Bénis nos responsables d'église, bénis nos autorités civiles. Seigneur, Oui, bénis-les, que nous puissions recevoir ainsi, d'une façon encore plus belle, ta bénédiction. Merci Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi et nous voulons ensemble avancer dans la bonne direction, dans le nom de Jésus. Amen.